Bonsoir et bon début de semaine à tous. Le président tanzanien estime que l'envoi de la brigade d'intervention de l'Union en RDC est une bonne chose, mais cela ne résoudra pas le problème de fond qui est politique. Il s'est exprimé ainsi en marge du 50e anniversaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a également proposé au gouvernement congolais de reprendre les négociations avec le M23, au Rwanda avec le FDLR et à l'Ouganda avec les ADF-NALU. Pour Jakaya Kikwete, il n'y a pas de paix durable sans négociations globales. Quelle analyse faire de la déclaration du président tanzanien? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 27 mai 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Franklin Tshamala, communicateur de la majorité présidentielle. Il est en ligne. Franklin Tshamala, bonsoir.
Bonsoir madame.
Thomas Luaka, secrétaire général du MLC, parti politique de l'opposition. Monsieur Luaka, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et professeur Moyela Tshiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique dénoncé en France. Professeur, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Vianney Kitumaini de Goma au Nord Kivu. Voilà pour une fois un président africain qui dit les choses comme elles doivent être dites. Aussi longtemps que le Rwanda et l'Ouganda refusera de parler avec leurs frères qui sont au Congo, la paix dans le Grand Lac restera une illusion. Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
En marge du 50e anniversaire de l'Union africaine, s'exprimant sur l'envoi de la brigade d'intervention de l'Union RDC, le président tanzanien estime que c'est une bonne chose, mais cela ne résoudra pas le problème de fond qui est politique. La Tanzanie estime qu'il n'y aura pas de paix durable dans la région des Grands Lacs sans négociation globale. Il a demandé au Rwanda et à l'Ouganda de négocier avec leurs rébellions respectives. À la RDC, Jakaya Kikwete demande la reprise des négociations avec les M23. Le Rwanda n'a pas tardé de qualifier le propos du président tanzanien d'aberrant. Inosa Olinga pour les détails.
Pour le président tanzanien cité par Radio France Internationale, autant qu'il est recommandé à la RDC de négocier avec les M23, autant les Rwanda et l'Ouganda devraient aussi le faire avec les FDLR et l'ADF Nalu. Bien que saluant le déploiement de la brigade d'intervention, Jakaya Kikwete, qui est dans la logique d'une approche globale pour la résolution de la crise dans la région des Grands Lacs, soutient que cette brigade ne résoudra pas les problèmes de fond dans cette région qui est politique. Sur la même Radio France Internationale, Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, a qualifier les propos du président Kikwete d'aberrants. Pour elle, les FDLR sont un groupe de génocidaires qui ont quitté les pays après avoir participé à l'élimination de plus d'un million de Rwandais. Ceux qui pensent que les Rwandais devraient s'asseoir à la table des négociations avec les FDLR ne savent pas ce qu'ils disent, conclut Madame Mushikiwabo. S'agissant de la brigade d'intervention, Paul Kagame, interrogé par Jeune Afrique, déclare que ce n'est ni le bon diagnostic ni le bon médicament. Pour lui, la solution pour résoudre la crise dans l'est de la RDC doit être politique parce que le problème est politique interne au Congo. Du côté congolais, pas de réaction jusqu'à présent.
Merci Innocent Olinga. Maître Adrien Lobakwe de Kananga Kwassa Occidental dit ceci. Je salue les propos du président tanzanien, mais je crains que sa recommandation ne puisse pas être un piège contre la RDC ou tout simplement une occasion de blocage pour l'établissement de la paix dans l'est du pays, car il n'est pas le premier à pouvoir faire une telle demande au président rwandais et ougandais. Franklin Tshamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Comment vous analysez les propos du président tanzanien lorsqu'il dit, par exemple, que la brigade d'intervention est une bonne chose, mais elle ne résoudra pas le problème de fond qui est politique?
Merci, madame, pour l'honneur que vous nous faites en nous conviant, et encore une fois, sur les plateaux de la Radio Capi. Merci pour la question aussi. Je me dois de dire que le président tanzanien qui a fait cette déclaration à Addis Abeba dans le cadre de la rencontre qui s'est tenue en marge du sommet, une rencontre, une première en tout cas, et qui était circonscrite dans le cadre de ce que l'accord global, en fait l'accord cadre, qualifie du mécanisme régional du suivi de l'accord cadre. Et je disais, le président tanzanien a eu le courage de proposer là un redimensionnement de l'approche préconisée par l'accord cadre et la résolution 2098 dans la résolution de la crise à l'est de notre pays et dans la région du Grand Lac. Il propose donc un redimensionnement de l'approche partant de l'identification des vrais agents porteurs de l'insécurité dans la région, en proposant également un traitement conséquent à leur réserver. Lorsqu'il préconise, par exemple, après l'identification des agents porteurs de l'insécurité dans la région, lorsqu'il préconise le dialogue pour les Rwandais sa rébellion, l'Ouganda avec sa rébellion, voilà ce que j'ai dit, identification des agents porteurs de l'insécurité dans la région, et les traitements conséquents le réservent.
Mais lorsqu'il dit, par exemple, M. Franklin Tshamala, que la brigade d'intervention ne résoudra pas le problème des fonds qui est politique, alors qu'on sait que la RDC, quand même, avait mis beaucoup d'espoir dans cette brigade d'intervention pour résoudre ce problème de l'Est.
Oui, il donne à la brigade, effectivement, à travers sa déclaration, sa juste mesure. La brigade d'intervention, et, en fait, la brigade spéciale d'intervention de la MONUC et de la MONUC est en fait une force qui a pour mission, comme le dit aussi bien l'accord que la résolution, qui a pour mission de neutraliser les forces qui sont actives, les forces négatives qui sont encore actives en ce moment dans la région des Grands Lacs, particulièrement à l'est de notre pays. Mais il donne la juste mesure à cette force parce que à la base de tous les problèmes qui allaient dans notre pays et dans la région des Grands Lacs, il y a des problèmes politiques. Au Rwanda, comme il le dit, il y a un problème de partage de pouvoir, un problème de cohabitation pacifique entre ethnies. Vous comprenez? Et en Ouganda, mêmement. Et en RDC, à l'est de notre pays, il y a un problème de cohabitation également d'ethnie, un problème d'accès aux ressources vitales, un problème foncier, et des problèmes de gouvernance économique et politique qui sont aussi à la base des agitations que l'on vit permanemment à l'est de notre pays. Et donc, lorsqu'il préconise cette approche-là, je pense qu'il donne effectivement à la brigade d'intervention sa juste mesure. Il s'agit d'une brigade, en fait d'une force militaire qui ne peut pas, elle, apporter des solutions aux problèmes politiques.
Alors, il y a cet auditeur qui dit ceci, Junior Kandé, qui nous écrit depuis Paris. Je pense que la brigade d'intervention de l'ONU n'est pas une panacée aux problèmes congolais. Comment traquer les forces négatives et continuer à négocier avec les mêmes forces? Le problème reste politique. Il est grand temps de régler d'abord les tensions internes par un dialogue national afin d'être unis pour régler politiquement les problèmes avec nos voisins.
Oui, je pense que s'agissant de ce qui est dit par ses compatriotes, il n'y a pas de commentaire à faire. Hein. Concernant particulièrement notre pays, je pense que nous sommes engagés dans cette dynamique-là, dans une dynamique d'organisation en permanence de nos concertations, de notre dialogue interne. Et la communauté internationale qui nous appuie dans ce processus, à travers les Nations Unies et d'autres partenaires, nous ont encouragés à aller de l'avant. Maintenant, il s'agit également d'encourager les autres, notamment les Rwandais et l'Ouganda, qui sont également des foyers principaux d'ailleurs, des crises récurrentes que nous vivons dans la région. Il s'agit de les encourager également à pouvoir rentrer dans cette voie pour permettre une résolution globale de la crise.
Alors, Franklin Tshamala, une autre réaction pour vous qui vient de Kolwezi, Chris Salumu qui dit ceci, tant que la RDC n'aura pas une armée qui doit défendre l'intégrité du territoire pour compter sur d'autres États, nous n'aurons jamais la paix dans ce pays. Vous êtes de la majorité présidentielle. Où est-ce qu'on en est finalement avec la réforme de l'armée?
Madame, je crois que les questions militaires sont des questions que l'on ne débat pas publiquement. Et ce sont des questions dont dépend la sécurité de la République. Tout le monde sait effectivement que notre armée est dans un processus de renaissance. Et cette armée-là est dans une dynamique des réformes. Et je ne peux pas dire ici que nous avons atteint les niveaux efficients attendus par les peuples congolais, mais les réformes se font et le travail de fond se fait avec le concours d'autres partenaires. Le résultat qui vient d'être obtenu au front à l'est de notre pays, où on a vu cette même armée, il y a une semaine, opposer une résistance farouche au Rwanda et au M23 qui était déterminé à prendre Goma. Et donc, ce comportement de notre armée qui a été affiché il y a une semaine montre effectivement qu'il y a un travail de fond qui se fait.
Merci Franklin Tchamala. Thomas Luaka, je rappelle que vous êtes secrétaire général du MLC, parti politique de l'opposition. Votre lecture par rapport aux propos du président tanzanien sur la brigade d'intervention qui n'est pas une solution au problème de l'Est de la RDC?
Non, personne n'a jamais dit que la brigade d'intervention va résoudre tous les problèmes au Congo. Et même dans l'accord cadre, lorsque vous regardez les engagements pris par la République démocratique du Congo, vous voyez qu'il y a des aspects qui ne sont pas concernés par la brigade d'intervention. Donc cela est clair pour tout le monde.
Mais on a suivi certaines autorités congolaises qui disaient qu'avec l'arrivée de cette brigade, ça sera la fin de tous ces groupes armés, surtout du M23,
non, en fait, c'est une
dans l'est de la RDC.
Oui, on a l'habitude avec notre gouvernement et les membres de la majorité, il y a une fuite des responsabilités. On pense que le travail que nous, on n'a pas pu faire, vous savez, aujourd'hui, les effectifs des FRDC sont estimés à 100 000 hommes. Donc, les FRDC avec 100 000 hommes, on n'a pas pu régler ces problèmes-là. Nous pensons, nous souhaitons, nous rêvons que la brigade d'intervention avec 3500 personnes va régler là où nous avons échoué. Non, c'est une fuite des responsabilités. Donc, la brigade ne peut pas résoudre tout les problèmes. Mais là aussi, il y a quand même un petit malaise au sein de la communauté internationale. Le malaise est dû à quoi ? Quel est aujourd'hui le statut réel du M23 ? Lorsque vous lisez la résolution 2098 du Conseil de sécurité du 28 mars 2013, vous voyez qu'il est clairement dit que les conseils de sécurité exigent, et là je cite, exigent du M23 qu'il mette fin immédiatement à toutes les formes de violence et activités déstabilisatrices et que ses membres soient démobilisés immédiatement et de façon permanente. Les conseils de sécurité demandent au M23 de se démobiliser, de se désarmer immédiatement. Et puis on voit un membre de la communauté internationale proposer aussi au gouvernement d'aller discuter avec ces gens-là qu'on considère comme des bandits. Tel que si vous lisez la résolution, le M23 est traité comme un groupe de bandits. Donc on demande qu'ils soient démobilisés, qu'ils soient désarmés, et en même temps on demande au gouvernement d'aller négocier avec Kampala.
Vous pensez qu'il y a une contradiction?
Je crois qu'il y a une contradiction. Mais maintenant aussi, les Tanzaniens. Les Tanzaniens, lorsque la brigade a été mise en place, sur base de cette résolution, la résolution donne comme mission à la brigade de neutraliser. On ne demande pas aux Tanzaniens ni aux Sud-Africains de venir régler les problèmes politiques du Congo. On demande de neutraliser les M23 et quelques groupes armés qui sont en train de déranger la population. Voilà leur mission. C'est tout ce qu'on leur demande. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes incapables de faire cela. Donc, je considère que le monsieur a raison quand il dit qu'on ne pourra pas résoudre parce qu'il y a beaucoup de problèmes politiques. Aujourd'hui, mon compatriote du gouvernement de l'AMP qui considère qu'il y a des secrets de défense. Non, ça, c'est un argument pour éviter de débattre.
Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs ou des Congolais qui se posent la question, qu'est-ce qui va arriver après le départ de cette brigade d'intervention?
Justement, qu'est-ce qui va arriver après? Et puis aujourd'hui, 3500 hommes. Est-ce qu'on est sûr qu'ils peuvent nettoyer les Nord Kivu, les Sud Kivu et une partie de l'Ituri, des groupes armés? C'est impossible. Donc il faut que les gouvernements, il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités. Et là aussi, nous demandons à ce que les gouvernements puissent nous dire exactement ce qu'ils sont en train de faire pour mettre pourquoi cette incapacité depuis des années à créer une armée, à créer une police digne de ses noms, à avoir un service de renseignement efficace. C'est de l'incompétence ou une manque de volonté politique. Voilà les vraies questions qui se posent au-delà de dire que Kikwete a dit ceci, a dit cela.
Alors, je vais revenir sur la question de Junior Kande, qui dit le problème reste politique. Il est grand temps de régler d'abord les tensions internes par un dialogue national afin d'être unis pour régler politiquement les problèmes avec nos voisins. Est-ce qu'il faut commencer d'abord par organiser ce dialogue-là avant de régler le problème avec nos voisins?
Je pense que face à cette menace, parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens qui ne le savent pas, c'est dans l'accord cadre, l'introduction de l'accord cadre, qui dit ceci. Le nombre de personnes déplacées figure parmi les plus élevés au monde. Aujourd'hui, on estime à peu près à plus d'un million de Congolais qui sont en souffrance, qui sont déplacés aujourd'hui dans leur propre pays. Donc, il y a vraiment un drame humanitaire qui se passe. Il est nécessaire, face à ces drames, face à ce qui se passe, face à la souffrance de nos compatriotes, que tous les Congolais puissent se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? On le fait comment? Voilà le but du dialogue. On veut que tout le monde puisse s'impliquer dans ces problèmes en apportant des idées, en apportant de la contradiction, pour que tous on parle d'une même voix, et là on sera plus fort. Bon, là j'ai appris dans toute cette déclaration, on nous dit que aussi les Ougandais, et beaucoup de Congolais se réjouissent là-dessus, les Ougandais doivent parler avec leurs rebelles, les Rwandais doivent parler avec les FDLR, mais cette idée-là ne date pas d'aujourd'hui. On subordonne la sécurité, la paix au Congo, au bon vouloir des dirigeants rwandais, au bon vouloir des dirigeants ougandais. Non, ce que les Rwandais peuvent faire entre eux, ce n'est pas notre problème. Non, nous, ce que nous voulons, c'est la paix. Qui est la démocratie ou pas au Rwanda, c'est un problème rwandais. Nous, ce qu'on veut, qu'on nous mette en place.
Ce qui se passe au Congo, C'est un problème congolais.
Pourquoi ça se passe seulement au Congo et pas en Tanzanie? Pourquoi les FDLR sont au Congo et ne sont pas en Ouganda? Parce que nous sommes les maillons faibles de la région.
Merci Thomas Luaka, professeur Mwaila Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, quelle est votre analyse par rapport aux propos du président tanzanien? La brigade d'intervention est une bonne chose, mais elle ne résoudra pas le problème de fond qui est politique.
Oui, il faut partir du principe que le président tanzanien est le chef d'État des pays contributeurs aux troupes qui constituent cette brigade. Donc il parle à la fois comme chef d'État de ce pays, responsable de ses hommes qui vont porter les armes pour défendre la République démocratique du Congo, et en même temps, il est l'observateur, un des pions majeurs de la région de Grand Lac. Il connaît bien la situation, à la fois au Congo, au Rwanda et en Ouganda. Donc c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, même si ce n'est plus Julius Nyerere. Alors, lorsqu'on entend ce qu'il vient de dire, c'est un propos de bon sens. Il assume la charge parce qu'il sait, comme tous les Congolais du reste, que ces 3000 hommes qui seront envoyés au Congo, alors que l'armée nationale congolaise, FARDC, c'est plus de 100 000 hommes, ces 3 000 hommes ne pourront pas, compte tenu de la géographie, compte tenu des moyens logistiques à déployer, compte tenu, le cas échéant, de la volonté non seulement des belligérants à en découdre avec les Nations Unies, et le cas échéant, les complicités de leurs protecteurs, que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda. Ces 3000 hommes, quelle que soit leur pugnacité, dans l'état actuel de nos connaissances, ils ne peuvent pas venir à bout de tous les problèmes au-delà d'une victoire militaire hypothétique. Par conséquent, cette brigade est pensée comme une force de dissuasion. Vous savez, la force, on peut l'avoir par dissuasion, c'est-à-dire faire peur à l'ennemi et créer les conditions qui ne permettent probablement pas de l'utiliser si l'ennemi, voyant la force mobilisée, la détermination des partenaires internes et internationaux, peut se résoudre à aller vers la table des négociations. Et d'ailleurs, d'une manière fondamentale, la guerre n'est que la politique menée par d'autres moyens, c'est la leçon que Clovis nous donne. Par conséquent, que ce soit le M23 ou la réponse des Nations Unies au regard des difficultés, la capacité de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo qui est amoindrée, cette brigade a été envoyée justement pour dissuader les partenaires, non seulement ceux qui ont signé l'accord avec la République démocratique du Congo, le M23 en premier, l'Ouganda et le Rwanda comme partenaires de cet accord, même si ils ne jouent pas les premiers rôles qui reviennent à la République démocratique du Congo et au M23. Dois-je rappeler que
En matière de différends, lorsqu'il y a un conflit, la recherche de la paix, le droit international général, y compris le droit international humanitaire, permet aux États en difficulté, notamment en cas de guérilla ou de rébellion contre un État souverain, un gouvernement démocratiquement élu, on demande à ce gouvernement de signer ce qu'on appelle en droit les accords spéciaux. Ces accords spéciaux ne sont pas signés avec d'autres États, mais sont signés avec les insurgés dans le seul but de concourir à la paix. Donc, cet accord a été signé, quelle que soit l'opinion qu'on puisse en avoir, l'intérêt supérieur du Congo milite à ce que le gouvernement de la République utilise tous les moyens de droit pour pouvoir l'appliquer. Il n'est pas question de vouloir spéculer à nouveau. Bien entendu, le président tanzanien parle du postulat qu'il n'y a pas qu'au Congo où il faut négocier. Il faut que les Rwandais négocient, il faut que les Ougandais négocient. Mais le destin du Rwanda et de l'Ouganda n'est pas le destin du Congo. Donc cet accord, comme le Congo est dans l'épicentre avec les M23, l'intérêt supérieur du Congo commanderait que la République se donne les moyens et que les gens du M23, dois-je rappeler que les gens du M23 sont des Congolais. Alors, jusqu'à la preuve du contraire, il s'agit de défendre... Allô?
Professeur, je disais, vous restant, Lina va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Massissi dans le Nord Kivu.
C'est Banoume d'opérer ici, habitant des territoires de Massissi, précisément dans le groupement Ouabo, province du Nord Kivu. La paix au Congo revient aux Congolais eux-mêmes et nécessite un dialogue global et intégration de tous les groupes armés congolais en dénichant tous les infiltrés. Et la brigade d'intervention n'est qu'un jeu, Isha et l'Ira.
Alors, il y a notre réaction de Joël de Kinshasa qui dit ceci. On a l'impression que le gouvernement congolais compte beaucoup plus sur cette force d'intervention de l'ONU plutôt que sur sa propre armée. Réaction, professeur.
Mais disons que le gouvernement doit avoir deux fers au feu. À un moment donné, le président de la République avait estimé qu'il avait trois fers au feu, soit l'action diplomatique, soit l'action militaire, soit la solution politique, c'est-à-dire le dialogue entre Congolais ou, je ne sais pas, concertation ou quelque chose de ce genre. Donc, dans la mesure où cette brigade, la décision de l'envoyer a été prise par les Nations Unies, le Conseil de sécurité, et qu'en ce moment, cette brigade est en train d'être montée par les pays contributeurs, y compris les Nations Unies. Le secrétaire général a donné environ 2 mois pour qu'elle soit constituée, et probablement un 3e mois pour l'employer. Donc il est de l'intérêt du gouvernement de la République démocratique du Congo de ne pas désarmer les FARDC, c'est-à-dire de créer les conditions pour que les FARDC soient en état de riposte complémentairement à cette brigade.
Merci.
Je pense que c'est de cette manière qu'il faut montrer à la brigade et à la fois au M23, que le Congo ne se décharge pas de sa responsabilité de la sécurité des personnes et des biens sur la brigade, même si cette brigade a la mission d'usage de la force.
Merci, professeur. C'est avec, je cite, beaucoup d'intérêt que j'ai reçu cette grande innovation introduite dans la résolution de la crise dans le Grand Lac par le président tanzanien. Fin des citations. C'est la réaction du gouverneur du Nord Kivu au propos de Jakaya Kikwete. Par cette déclaration, Julien Paluku salue le fait que les chefs d'État de la région commencent à comprendre jusqu'où l'hypocrisie a ruiné les Grands Lacs. Il est gentil téléphone par Alain Hung.
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai reçu cette grande innovation introduite dans la résolution de la crise dans le Grand Lac par le président tanzanien. Ce qui m'achante, c'est que les chefs d'État de la région commencent à comprendre jusqu'où les mensonges ou même l'hypocrisie ont ruiné le Grand Lac. Parce que, comme vous le savez, en RDC, il y a 3 catégories de Rwandais. Il y a les génocidaires, avec lesquels, probablement, il est presque difficile de négocier. Mais la 2e catégorie est composée des réfugiés politiques de 94 qui ont peur de rentrer au Rwanda, craignant les sorts réservés par exemple à Victoire Ingabire, à qui il a été collé l'idéologie du génocide pour avoir osé se présenter comme candidat président. Et pour cela, elle a été condamnée à 8 ans. Il y a la 3e catégorie des Rwandais, ce sont des Rwandais qui sont nés au Congo ou qui étaient mineurs lors du génocide et dont l'âge est situé entre 19 et 30 ans. Je crois que ces 2 dernières catégories sont souvent exclues de la participation à la politique au Rwanda et pour cela, ils se font recruter ça et là par les génocidaires pour les accompagner accompagner. Voilà pourquoi je salue donc cette grande ouverture du président tanzanien Kikwete qui touche là, pour moi, la clé qui ouvre la voie à la solution globale dans la crise qui secoue les Grands Lacs.
De son côté, la société civile du Nord Kivu salue la proposition du président tanzanien qui invite aussi le Rwanda et l'Ouganda à dialoguer avec leurs forces négatives opérant en RDC pour une solution rapide de la crise dans la région des Grands Lacs. Pour Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu, la RDC ne pourra plus continuer à porter le fardeau des problèmes rwandais. On l'écoute au micro de Michel Kifinda.
C'est au-delà des problèmes politiques. Et nous pensons qu'il est toujours urgent de faire l'action militaire. Et l'action militaire ne doit pas être de mise. Mais aussi, si le problème d'insécurité peut être politique, c'est pas seulement pour la RDC. Nous pensons que c'est pour toute la sous-région. C'est pourquoi nous avons rejoint la réflexion du président tanzanien que les Rwandais devaient aussi trouver des solutions politiques, c'est-à-dire dialoguer avec les FDLR de son côté, et l'Ouganda dialoguer avec les LRA ou les ADF Nalu, ce serait aussi trouver des solutions politiques à ces problèmes. Et donc, si dans toute la sous-région, on comprend que le problème est politique, donc ce serait autant pour la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, et nous pouvons penser que cela permettra effectivement à ce qu'à côté des solutions militaires, on arrive à des solutions durables.
Franklin Tchamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. La proposition du président Jakaya Kikwete qui demande au Rwanda de négocier avec le FDLR et l'Ouganda avec les ADF Nalu. Le Rwanda a réagi pour qualifier les propos du président tanzanien d'aberrant, c'est-à-dire le Rwanda n'est pas d'accord avec la proposition du président tanzanien. Vous pensez que cette proposition est une sortie des crises de la situation dans l'est de la RDC?
Merci pour la question, madame. Je crois que les Rwandais nous ont habitués un peu à cette attitude-là orgueilleuse. Vous savez, chaque fois que la communauté internationale n'a rien fait par rapport à la crise qui prévaut dans les Grands Lacs, les Rwandais s'irritent. Et chaque fois qu'une initiative est prise allant dans le sens de résorber la crise, les Rwandais pensent toujours que c'est à leur dépens que l'initiative est prise. Et donc, on est presque habitué à cette attitude-là orgueilleuse de la part du gouvernement rwandais. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est aussi simple. L'accord cadre qui a été signé, c'est un accord pour la paix, la sécurité en RDC et la coopération dans la région des Grands Lacs. Et pour autant que chacun peut faire la propriété devant sa cour. Ben, et vous voyez, la propriété pourra prévaloir dans toute la région. Et donc, c'est aussi simple que ça. Le président tanzanien dit simplement aux Rwandais de faire la propriété devant la cour rwandaise. Aux Congolais de faire de même. Et aux Ougandais de faire de même. Aux Tanzaniens, dans la mesure du possible, de faire de même. Pour que la cour du Grand Lac soit le plus propre possible. Bon, maintenant, si les Rwandais pensent qu'ils n'ont pas d'efforts à faire, ou s'ils n'ont pas de la poussière à enlever dans la partie du Rwanda où les problèmes se posent, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas à s'irriter outre mesure. Mais ce qui est vrai, c'est que cette crise, lorsque le président, tous les observateurs attentifs observent bien les choses, la crise qui sévit aujourd'hui dans la région et qui a des conséquences atroces dans notre pays, c'est une crise qui a pour point de départ la gouvernance au Rwanda. Les contrastes et les contradictions de gouvernance au Rwanda. Et donc, qu'aujourd'hui, les personnes avisées en viennent à dire, en définitive, il est venu le moment de demander également au Rwanda d'assumer sa part des responsabilités. N'oubliez pas que ce qui se passe au Congo a toujours des répercussions au Rwanda, et vice-versa. Ce qui se passe en Ouganda, étant donné la proximité de nos États, a toujours des répercussions au Congo, et vice-versa. Et donc, que les personnes bien avisées par rapport à ces choses en viennent à dire aux Rwandais, qui doivent en fait interagir avec nous dans ces processus de paix, de pouvoir assumer leur part des responsabilités, et de ne pas toujours s'empresser à venir balayer devant la cour congolaise. Et donc, qu'on leur dise, assumez votre part de responsabilité, ça relève du bon sens. ça relève du bon sens. Et donc, je pense à ce niveau, et tout est clair, il ne devait même pas se poser beaucoup de difficultés, il ne devait même pas, c'est des propos qu'il ne pouvait même pas appeler un débat important, tant qu'il est vrai que c'est que le président tanzanien a dit, c'est une évidence.
Alors, on va prendre pour vous, Franklin Tchamala, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Isaac Bampor ici de Bukavu au sud Kivu. C'est très étonnant que ce soit un chef d'État étranger qui réclame les négociations au Rwanda et à l'Ouganda avec leurs rébellions respectives. Pourquoi toute cette réticence de nos gouvernants à l'égard de nos voisins ennemis au moment d'en parler sur la scène internationale?
Pourquoi, pour cet auditeur de Bukavu, il s'est dit, pourquoi la RDC n'a pas en parlé à la communauté internationale? Il faut que ce soit un président étranger qui propose cela.
En fait, ce n'est pas nouveau. Il y a longtemps que notre pays a commencé à faire les plaidoyers pour les dialogues inter-rwandais, et même pour les dialogues inter-ougandais. Ce ne sont pas des propos nouveaux.
Mais quelle est la suite?
On a parlé, je me permets de revenir sur la question.
Quelle est la suite par rapport à toutes ces démarches que le gouvernement congolais a entrepris?
Je ne vous saisis pas bien, madame.
J'ai dit, quelle est la suite par rapport à toutes ces démarches que le gouvernement congolais a entrepris pour le dialogue inter-rwandais? Est-ce que ça a donné quelque chose?
Mais la preuve, c'est que c'est un discours qui est maintenant relayé par d'autres, alors qu'il y a quelques moments, personne n'osait en parler. Maintenant, même la diplomatie au plan international est en train d'intégrer la proposition des gouvernants congolais dans la dynamique. Je pense que chaque chose a son temps. Ce temps-ci, c'est le temps de vérité. C'est le temps de vérité. Merci. Et la vérité, c'est celle-là. Elle est mauvaise. Mais elle a été entendue.
Merci Franklin Tchamala, Thomas Louaka. On sait qu'il y a cette proposition de dialogue inter-rwandais, ce n'est pas la première fois qu'on entend. Il y a des ONG qui avaient même proposé ça dans le temps. Je prends le cas de Crisis Group qui avait proposé un dialogue inter-rwandais pour mettre fin à la crise dans l'est de la RDC. Franklin Tchamala vient de le dire aussi, le gouvernement avait entrepris aussi cette démarche-là. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, parce que ça vient d'un président étranger, ça pourrait donner quelque chose?
Non, ça ne pourra pas donner quelque chose, madame. Je pense qu'il y a une erreur d'analyse. Et là, nous nous trompons nous-mêmes. Il faut qu'on s'assume. Quel est le point de vue de la communauté internationale? Dans la résolution dont j'ai parlé tout à l'heure, voilà ce qui est dit. Les gouvernements de la RDC est responsable au premier chef de la sécurité, de la protection des civils, de la réconciliation nationale, de la consolidation de la paix et du développement. Qu'est-ce qu'on demande à ces gouvernements de faire? Puisqu'il est responsable numéro un, on dit il doit se doter des forces de sécurité professionnelles, responsables et durables. Voilà l'analyse de la communauté internationale. La sécurité du peuple congolais, c'est de la responsabilité du gouvernement congolais. Maintenant ici, par un exercice intellectuel, on veut nous faire croire, et mon frère Franklin l'a dit clairement, que si aujourd'hui on a l'insécurité à l'Est, si aujourd'hui le gouvernement est incapable de protéger des Congolais, je ne parle pas des Rwandais, de protéger les Congolais contre des bandes, des barbares ou des FDLR qui pillent, qui violent, qui exploitent de manière illicite les ressources du Congo, ce n'est pas la faute du gouvernement congolais, c'est la faute du gouvernement rwandais parce qu'ils ne veulent pas dialoguer avec ces gens-là. Quel est ce raisonnement-là? Nous devons nous donner les moyens de neutraliser ces gens-là. Parce que sinon, il va y avoir un précédent. Le précédent, c'est quoi? Les centrafricains mécontents du régime Séléka, ils vont venir à l'Équateur, commencer à tuer nos sœurs, à violer, à piller, pour que le gouvernement congolais plaide qu'il y ait un dialogue centrafricain. Demain, il y aura des Angolais mécontents du régime de Rwanda qui vont venir dans le Bas-Congo, qui vont commettre des exactions, puisque nous sommes incapables de les neutraliser et on deviendra l'avocat de toutes ces bandes, de tous ces groupes. Le raisonnement est biaisé. Si Kikwete considère, et c'est une bonne chose, je pense qu'il est bon que les Rwandais se parlent entre eux. Mais on ne peut pas subordonner la protection de nos populations à l'ouverture d'un dialogue entre Rwandais. Aujourd'hui, quel est l'intérêt des FDLR de rentrer au Rwanda? Puisqu'ils exploitent illicitement, ils s'enrichissent sur les ressources du Congo, pourquoi voulez-vous qu'ils rentrent chez eux, aller habiter quelques collines où il y a déjà beaucoup de monde? C'est à nous.
Et donc, pour vous, le dialogue inter-rwandais,
Madame,
c'est pas une partie de la solution, quoi.
Non,
ça ne résoudra rien.
Non, je considère que c'est une bonne chose. Mais, justement, chez nous, il y a cette déviation qui arrive souvent. On considère que c'est la solution au problème du Congo. Ce n'est pas ça, la solution. Aujourd'hui, on peut
une
prendre...
Une partie de la solution.
Madame, la solution la plus durable... C'est que les RDC se donnent les moyens politiques d'avoir une cohésion nationale. C'est que la RDC se donne les moyens militaires de neutraliser tous ces groupes qui sèment la terreur à l'Est. Voilà la solution.
Alors, il y a cet auditeur, Thomas Luaka, qui nous écrit du Kalima au Maniema. Il s'appelle Charles Ingene. Il dit ceci, la déclaration du président tanzanien est une manière courtoise de prévenir que la brigade spéciale n'est pas la solution miracle à la crise dans l'Est de la RDC. Toutefois, nous pensons que la RDC a déjà eu pour sa dose d'échec en matière de négociation avec les forces négatives et qu'une opération militaire dissuasive reste le dernier rempart. Entre-temps, mieux serait de pousser le Rwanda et l'Ouganda, qui n'ont jamais tenté cette expérience de négocier avec leurs forces négatives, de le faire d'abord. Peut-être que ça pourra avoir un impact sur la situation dans l'est de la RDC.
Je suis tout à fait d'accord avec notre ami, mais je reviens sur mon idée et que la pacification à l'est, c'est une responsabilité congolaise en premier lieu. Les dialogues au Rwanda, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas conditionner la paix à l'Est au dialogue inter-rwandais. C'est ça mon idée.
Mais il ne faut pas oublier aussi que les forces négatives étrangères ont quand même une implication dans cette situation.
Oui, mais madame, pourquoi ils ont une implication chez nous? Je disais tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas d'FDLR en Tanzanie? Parce qu'en Tanzanie, il y a un État. Pourquoi les FDLR ne sont pas en Ouganda? Parce qu'il y a un État.
Chez nous, il n'y a pas d'État, c'est ça?
Non, chez nous, il n'y a pas. On n'a plus d'armée. On n'a plus. Madame, en quelle langue voulez-vous qu'on le dise? Nous avons une armée qui est là, nous avons des hommes, mais aujourd'hui nous n'avons pas la capacité de neutraliser tous ces groupes-là. Il y a quelques années, ces groupes-là n'existaient pas. Mais aujourd'hui, il y a déliquescence de l'État. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Nous avons les hommes-là, dans les FRDC, je connais personnellement, des officiers de valeur, des militaires patriotes qui sont prêts à se battre.
Merci.
Mais tout cela est déstructuré. Donc, encore une fois, la brigade va venir, elle fera un travail de dissuasion. Et je m'arrêterai peut-être par là. L'importance de cette brigade, c'est la suivante. La brigade permettra de dissuader les forces étrangères, rwandaises et ougandaises, qui pourraient apporter assistance au M23. Voilà le rôle de la brigade.
Merci Thomas Luaka. Professeur Moïla, votre analyse par rapport au dialogue inter-rwandais et inter-ougandais, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la situation dans l'est de la RDC? Est-ce que ça pourrait être partie de
ça,
solution?
C'est bien sympathique, évidemment, mais la proposition du président de Tanzanie, quelle que soit la respectabilité qu'on puisse avoir à son égard, n'est qu'une proposition. Or, une proposition n'a pas force de droit. Par conséquent, il faut revenir à la réalité des choses. La réalité, c'est quoi? Il y a la rébellion au Congo, l'M23, qui, les armes à la main, conteste l'autorité souveraine du pouvoir que les Congolais se sont librement donné, quelles que soient par ailleurs les critiques sur les élections. Par conséquent, la force qui est envoyée, la brigade, il faut prendre la brigade au sens de la résolution du Conseil de sécurité. La brigade n'a pas été envoyée pour aller faire négocier le Rwanda ou l'Ouganda. La brigade a été envoyée pour dissuader les forces négatives en République démocratique du Congo, notamment le M23 et les autres, en vue de garantir la sortie de guerre en République démocratique du Congo. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, par conséquent, il faut revenir à la réalité. Il ne faut pas s'y disperser. Le gouvernement congolais a pris un engagement dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'il faut voir les responsabilités du Rwanda et les responsabilités de l'Ouganda. Puisque si on s'égare en tournant le regard vers oui, il faut que le gouvernement ougandais négocie avec les hommes de Kony, il faut que le gouvernement de Kagame négocie avec les FDLR. Ça, c'est un autre débat, ça ne concerne pas le Conseil de sécurité, ça ne concerne qu'indirectement la République démocratique du Congo. Revenons sur l'essentiel, la force qui est en train d'être montée, c'est-à-dire la brigade, et l'engagement du gouvernement congolais à négocier pied à pied avec d'autres Congolais qui constitue le M23. C'est ça la réalité. Le reste, c'est de l'amusement, c'est gentil, mais ça n'a aucune portée juridique pour pouvoir impressionner le Conseil de sécurité et encore moins impressionner le président Kagame ou le président Museveni.
Professeur, il y a cet auditeur, Blanchard Vanucci, qui dit ceci. Comment sortir de cette insécurité chronique de la guerre civile qui guette en permanence pour parvenir à une stabilité et un développement durable afin de limiter les nombreuses violations de droits de l'homme occasionnées à cet effet?
Disons qu'il y a plus de 13 ans aujourd'hui que les Congolais avaient librement décidé de la création d'une armée républicaine. Aujourd'hui, les Congolais, à la face du pays et du monde, ont donné la preuve de leur incapacité dans 13 ans de monter une armée d'une de ces noms. Ça, c'est la réalité, quels que soient les propos qu'on puisse utiliser. C'est une défaite de tous les Congolais, qu'ils soient au gouvernement ou dans le pays.
Comment sortir de cette crise, professeur? On n'a plus beaucoup de temps. Professeur, comment sortir de cette crise? Il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission.
On ne peut sortir de cette crise que moyennant d'abord l'application de l'accord, parce que madame, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un accord cadre qui a été signé, qui engage la communauté internationale, qui a obligé les Nations Unies à envoyer une brigade. Restons dans ce cadre d'abord, que le gouvernement congolais, quelles que soient les difficultés, remplisse son contrat conformément à sa propre signature. Et le reste, on verra après, parce que
merci, professeur.
On ne peut pas fermer une chose à la fois.
Merci, professeur. Franklin Tshamala, un mot en guise de conclusion.
Oui, madame, je pense que le président tanzanien nous engage à travers ses propos, à travers son propos, et il nous convie à avoir une vision globale de la question de la crise dans la région et préconise là une approche globale de la question. Parce qu'en fait, le problème de fond qu'il soulève est celui-ci. Lorsque le Hutu rwandais qui écume les forêts du Congo quitte le Congo pour son pays, le Rwanda.
Franklin Tshamala, en un mot.
Bien, merci beaucoup. Merci. Ok, merci.
Merci Franklin Tshamala, Thomas Luaka, en 30 secondes.
En 30 secondes. Donc, le président tanzanien a raison quand il a dit que la brigade ne résoudra pas tous les problèmes au Congo. Deuxième élément, est-ce qu'il faut encourager les dialogues entre le régime rwandais et ses opposants? C'est une très bonne chose. Troisième élément et dernier élément, ne rêvons pas, ne pensons pas que les problèmes de l'Est vont se résoudre automatiquement si un dialogue est ouvert au Rwanda. C'est à nous d'assumer nos propres responsabilités.
Merci.
En particulier le gouvernement.
Merci Thomas Luaka, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Samuel Kachak, Alain Rung, sous la supervision de Pelé Équipe et Lamondo. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique. Au micro, Kéline Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Rediffusion demain, 4h15, heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.